VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, il est 17h30, temps universel, Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 7 avril 2017. Morgane Guiriec en direct de Washington DC. Émission spéciale ce soir, première frappe américaine contre le régime de Bachar al-Assad. 59 missiles ont été largués sur une base aérienne en Syrie en représailles à l'attaque chimique de Khan Cheikhoun. Réaction dans le monde, analyse, opinion, nous y consacrerons une grande partie de notre journal. Et dans le reste du monde, Stockholm en Suède a été le théâtre d'un attentat aujourd'hui. Législative en Gambie, le Parti démocratique unifié du président Adama Barrow remporte la majorité des sièges de la future assemblée. Les États-Unis ont procédé à des frappes en Syrie. Pas moins de 59 missiles ont été lancés contre une base aérienne du gouvernorat de Homs, mesure prise en représailles à une attaque chimique présumée et attribuée par Washington à l'armée de Bachar al-Assad. La Russie, principale alliée du régime syrien, a saisi le Conseil de sécurité. La décision surprise du président américain Donald Trump pour une action militaire en Syrie a suscité une vague de réactions à travers le monde. Abdourahmane Dia nous fait le point.
Commençons par ceux qui dénoncent les frappes. La Syrie, naturellement, condamne fermement et estime que ces frappes font des États-Unis un partenaire de l'organisation État islamique. La plus forte opposition vient de la Russie, qui suspend l'accord avec Washington sur la prévention d'incidents aériens, en plus de la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vladimir Poutine parle d'une agression contre un État souverain. L'Iran, autre solide allié du régime syrien, a dénoncé l'utilisation par Washington de ce qu'elle considère comme de fausses allégations sur les armes chimiques. La Chine s'est montrée plus mesurée, appelant à éviter toute nouvelle détérioration de la situation en Syrie, tout en condamnant l'usage d'armes chimiques. Mais Washington peut se réjouir du soutien total de ses alliés traditionnels, à commencer par l'OTAN. Le régime syrien porte l'entière responsabilité des frappes américaines, a affirmé le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. La France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Turquie, le Japon, Israël et des pays arabes comme l'Arabie Saoudite soutiennent l'action des États-Unis que beaucoup considéraient inimaginable il y a juste une semaine. Ici à Washington, les frappes ont aussi fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les républicains sont tous derrière le président Trump. Les démocrates disent comprendre l'argument moral, mais demandent un débat au Congrès.
Et du côté de New York, les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont réunis pour discuter de ces frappes. Cette réunion d'urgence se tient à la demande de la Bolivie, qui a estimé que ces frappes américaines contre une base syrienne constituaient une violation des lois internationales. Cette intervention de l'administration Trump vient comme une surprise pour bon nombre d'Américains. Salwa Jafari a joint l'ancien colonel de l'armée américaine et auteur de 4 ouvrages sur les stratégies militaires américaines, Douglas McGregor ne voit pas cette volte-face d'un bon œil.
I'm not sure that we are changing a strategy or that we even have a strategy.
Je ne suis pas sûr que M. Trump ait changé de stratégie ou qu'il ait même une stratégie. Je pense que nous avons devant nous un président qui a une envie pressante d'agir. Cela me semble une décision essentiellement basée sur l'émotion. Il a vu des photographies d'enfants, de femmes et d'adultes morts à la suite d'attaques de gaz. Il a accepté les preuves qui lui ont été présentées, que c'était le régime d'Assad le responsable, que c'était un acte délibéré. Il a cherché désespérément quelque chose à faire et il a choisi l'option la moins risquée, en tout cas qui ne présente pas un grand risque pour les pilotes. Mais franchement, c'était théâtral plutôt que militaire.
Alors le président Trump décide du jour au lendemain de changer de stratégie, d'attaquer le régime syrien. J'imagine qu'il a toute une équipe qu'il convoque pour en discuter. Comment cela se passe-t-il généralement en coulisses? Quelle est la procédure habituelle?
Well, when you make the decision to attack
Lorsque vous prenez la décision d'attaquer un État souverain avec lequel vous n'êtes pas en guerre, vous allez normalement au Congrès pour convaincre ses membres. Il a décidé évidemment de ne pas s'en faire. Je suppose qu'il avait un soutien au Sénat, je suis sûr qu'il en a de certaines personnes, mais normalement, vous demandez d'abord une autorisation du Congrès et du comité sénatorial des forces armées, et nous ne l'avons pas fait dans ce cas. Ensuite, vous examinez les bons outils pour atteindre votre objectif militaire. Et dans ce cas précis, je ne suis pas sûr qu'il y ait un objectif militaire.
Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur l'arsenal chimique syrien ?
Ce qui se passe nous montre que la Syrie ne s'est pas débarrassée de toutes ses armes chimiques, comme les Russes l'ont dit. C'est décevant. Et cela nous dit aussi que les Syriens ne sont pas à l'aise dans l'utilisation de ces armes. Ils ne devraient pas l'être, en tout cas, vu le tollé que ça a provoqué aux États-Unis et franchement en Europe, quand les produits chimiques ont été utilisés la dernière fois. Le problème avec ce que nous avons fait, c'est que c'est vraiment inutile. Nous avons fait des trous dans le sol pour exprimer notre mécontentement. C'est beaucoup plus susceptible de persuader M. Assad et ses alliés russes et iraniens de redoubler d'efforts pour anéantir leur opposition.
Voilà, c'était l'ancien colonel de l'armée américaine, Douglas McGregor. La question de l'avenir de Bachar al-Assad à la tête de la Syrie semble de nouveau posée avec ses frappes américaines. Tatiana Mosso a posé la question à Julien Théron, spécialiste de la Syrie.
Peut-être que le régime syrien s'est dit que devant la chute de priorité qui était rhétorique jusque-là du départ de Bachar al-Assad, que peut-être que le régime avait les mains libres de faire ce qu'il voulait. Donc effectivement, là on a deux événements qui sont contradictoires qui vont donc retourner la politique américaine. Il va falloir voir maintenant comment se passent les négociations politiques par rapport au régime syrien, de savoir si cette frappe a une conséquence, c'est-à-dire que ça va être une incitation pour le départ de Bachar al-Assad, ou en tout cas de transition politique, même dans une transition douce, ou pas, et savoir si les Américains vont prendre d'autres mesures pour forcer le régime à négocier, ou alors si c'est vraiment un seul élément, c'est-à-dire que c'est que la question des armes chimiques qui est en question.
Alors si le Kremlin et la Maison-Blanche décident de mettre Bachar al-Assad hors jeu, quel est le scénario le plus probable ? Une issue diplomatique ou un coup de force ?
Je pense que ce serait plutôt une issue diplomatique. Il est vrai que hier, pendant les négociations sur la résolution au Conseil de sécurité. On a pris un petit peu plus de temps pour négocier avec les Russes pour que cette résolution passe et qu'ils ne mettent pas leur veto. À un moment, on a senti une rupture, certainement, des négociations. Et les Russes, à ce moment-là, ont peut-être compris que les Américains allaient frapper de manière unilatérale.
Une dernière question. Pour vous, Bachar al-Assad est-il définitivement sur un siège éjectable ? Est-ce que c'est juste une question de temps ?
Je crois qu'il l'est depuis 2011 et qu'il a su jouer son maintien de manière assez à la fois fine et brutale, en jouant avec ses alliés, parfois d'ailleurs, on ne le dit pas assez, mais parfois contre ses alliés. Il a eu des actions au moment de la rencontre entre la Russie et la Turquie. Il a opéré sur le terrain contre le cessez-le-feu avec les milices soutenues par l'Iran, pour bien montrer qu'il était a priori le maître du jeu sur le terrain. Donc il y a des dissensions dans ce camp-là et on va voir si effectivement il a fait un pas de trop ou alors s'il va encore réussir à jouer ses alliés pour se maintenir en place.
Julien Théron, spécialiste de la Syrie, joint par Tatiana Mosso. Première frappe des États-Unis donc contre le régime de Bachar al-Assad. Pour recueillir quelques réactions des Américains, Jill Dico a promené son micro dans les rues de la capitale américaine.
D'une manière générale, les réactions de l'homme de la rue à Washington sont plutôt mitigées. Écoutons-les.
Non, je n'y attendais pas du tout, mais ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont utilisé des armes chimiques. La réponse américaine ne me dérange pas. L'Amérique a fait ce qu'elle devait faire. En gros, c'est ça. Je ne pense pas que ces frappes mènent à une guerre. La Syrie est un petit pays sans grande chance de gagner et l'Amérique a beaucoup d'alliés.
Mon avis est que nous avons enfin pris position, mais dans l'avenir, j'espère qu'une telle décision sera prise par le Congrès et non par l'administration Trump.
Par contre, certains Américains ne sont pas du tout favorables à ces frappes.
Je pense que c'est très décevant. Cela montre quel genre de personnes nous avons aux commandes. une administration irresponsable à la Maison-Blanche. C'est très décevant. Nous avons un président qui critique son prédécesseur de mener des actions militaires sans passer par le Congrès, alors qu'il fait exactement la même chose avec zéro résultat à un moment où le taux de chômage augmente. Je ne suis pas un fan et je pense que c'est décevant.
Je partage complètement cette opinion. Nous sommes ici à Washington pour la première fois avec nos deux petites filles et c'est un sentiment amer de leur montrer notre capitale un jour comme celui-ci.
Ah, à vrai dire, je n'ai plus de mots ni de réaction. Je ne comprends plus ce qui se passe dans ce pays. Donc, ouais, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Trump, oulala, c'est juste wow, c'est juste dingue ce qui se passe en ce moment.
Même avec ses frappes en Syrie, l'Amérique reste très divisée depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Voilà, c'était donc des habitants de Washington DC rencontrés par Dili Dico. Voilà pour cette page spéciale sur la Syrie. Tout de suite, les nouvelles dans le reste du monde. Stockholm, la capitale de la Suède, cible d'un attentat aujourd'hui. Un camion, selon des images diffusées par des médias, a renversé des passants en plein centre-ville. Le véhicule a fini sa course dans un magasin et on compte bien évidemment plusieurs morts. Neil Gorsuch est le 9e juge de la Cour suprême américaine. Le Sénat, à majorité républicaine, a confirmé aujourd'hui le magistrat conservateur de 49 ans. Nommé à vie, il va ancrer l'institution qui tranche les grands débats de la société américaine dans le conservatisme, au grand soulagement des religieux traditionnalistes, des partisans des armes à feu, des opposants à l'avortement ou encore des puissants intérêts financiers. En Gambie, près de 900 000 électeurs étaient appelés hier à choisir leur parlementaire parmi 238 candidats issus de 9 partis politiques ou de listes indépendantes. Le Parti démocratique unifié du président Adama Barrow a remporté la majorité absolue aux élections législatives qui ont donc eu lieu hier, clairement à Gibourg.
L'UDP a remporté 31 des 53 sièges à pourvoir, selon les résultats définitifs annoncés par la commission électorale. L'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, ancien parti au pouvoir, ne conserve que 5 sièges. Le Congrès démocratique de Gambie, arrivé en troisième position à l'élection présidentielle, a obtenu 5 sièges. Malgré la déception d'avoir perdu, l'un des candidats, Ibrima Niang, a estimé que le scrutin avait été transparent. Il s'agissait du premier scrutin depuis le départ en exil de Yahya Jammeh il y a 3 mois. Lamine Diba, ministre et responsable de l'UDP, s'est félicité de cette victoire, affirmant que la première priorité sera de réviser la Constitution.
République démocratique du Congo, le Premier ministre Sami Badibanga a présenté sa démission. Le président Joseph Kabila avait déjà annoncé la nomination imminente d'un nouveau chef de gouvernement. Au Tchad, Nadjo Kaina, activiste de la société civile, coordonnateur de la campagne Tournons la page pour la démocratie en Afrique, a été arrêté hier soir. Au Cameroun, la peine de mort a été requise par le tribunal militaire de Yaoundé à l'encontre du correspondant camerounais de Radio France Internationale, Ahmed Abba. Il est poursuivi pour complicité de terrorisme. Plusieurs milliers de Sud-Africains sont descendus dans les rues des principales villes du pays pour réclamer le départ de Jacob Zuma, qui a hérité une partie de la population en remaniant la semaine dernière son gouvernement pour nommer des fidèles. Le point avec Solange Nyamulisa.
Environ 10 000 partisans de l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, ont manifesté dans les rues de Johannesburg. Sur certains panneaux, on pouvait lire « J'aime mon pays, pas mon gouvernement ». De leur côté, des supporters du président Zuma et des vétérans de l'ANC se sont rassemblés autour du siège du parti. À Pretoria, le parti communiste allié historique de l'ANC a organisé une marche vers le palais présidentiel. Le président sud-africain est cité dans plusieurs scandales. La semaine dernière, il a procédé à un remaniement fort controversé qui a créé des remous au sein de l'opposition et dans son propre parti. Malgré tout, le secrétaire général de l'ANC a réaffirmé mercredi son soutien à Jacob Zuma, qui doit affronter le 18 avril un vote de défiance devant le Parlement.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et de retour avec vous, Morgane Guiriec, place maintenant à l'actualité économique en Afrique. Jacques Aristide, la Minute Éco.
L'économie de la Côte d'Ivoire, première d'Afrique de l'Ouest francophone, devrait rester forte en 2017, malgré la chute de plus de 35% des cours du cacao, dont le pays est le premier producteur mondial. C'est ce qu'estime le Fonds monétaire international au terme d'une mission de 2 semaines sur place. L'an dernier, le pays a enregistré un taux de croissance de 8%, tandis que l'inflation a été contenue autour de 1% et le déficit budgétaire a atteint 4% du PIB, conforme aux objectifs. Toutefois, d'après le FMI, les événements récents et les chocs extérieurs requièrent une révision des projections économiques et budgétaires pour 2017. L'agence de notation financière Fitch Ratings a abaissé la note souveraine de l'Afrique du Sud en catégorie spéculative. Cette note avait déjà été placée en catégorie spéculative lundi dernier par l'agence Standard & Poor's, quelques jours après un remaniement ministériel controversé qui a coûté son poste au respecté ministre sud-africain des Finances, Pravin Gordhan. Son remplaçant, Malusi Gigaba, a prévenu qu'il n'avait pas l'intention d'infléchir la politique fiscale en œuvre. En visite à Tunis, le Premier ministre français encourage le gouvernement tunisien à poursuivre sur la voie des réformes. Bernard Cazeneuve a réaffirmé aujourd'hui le soutien financier et la confiance de Paris dans la jeune démocratie fragile économiquement. Selon lui, les entreprises françaises présentes en Tunisie ne partiront pas.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Et blessure pour le Sénégalais Sadio Mane.
Oui, l'attaquant international sénégalais de Liverpool sera absent pour le reste de la saison en raison d'une blessure à un genou. C'est ce qu'annonce aujourd'hui son entraîneur Jürgen Klopp. Mané s'est blessé à un ménisque lors de la victoire de Liverpool contre Everton 3-1 le 1er avril. Il avait été aperçu dans la semaine avec des béquilles. L'ailier sénégalais arrivé cet été en provenance de Southampton a inscrit 13 buts et enregistré 6 passes décisives en 27 matchs en Premier League cette saison.
Et Zidane qui laisse planer le doute sur son avenir.
Zinedine Zidane, sous contrat au Real Madrid jusqu'en 2018, a semé le doute sur son avenir comme entraîneur du club merengue en déclarant qu'il n'était pas en train de planifier la saison prochaine et qu'il se concentrait sur la présente campagne. On rappelle qu'il a été nommé en janvier 2016 comme entraîneur du Real. Zidane a réussi des débuts tonitruants en remportant la Ligue des Champions dès sa première saison, puis en décrochant dans la foulée la Supercoupe d'Espagne, puis le Mondial des clubs.
Les comptes de la FIFA sont dans le rouge.
Une perte record, 369 millions de dollars, des réserves qui fondent d'un tiers. La FIFA a publié aujourd'hui de bien mauvais chiffres pour 2016 et a blâmé les investissements inconsidérés datant du règne de Sepp Blatter. Le déficit se creuse et la FIFA explique ce déficit par la hausse des charges liées aux enquêtes judiciaires en cours et à l'amortissement des frais relatifs à certains investissements inconsidérés, notamment un musée du football mondial. Il faut y ajouter le triplement des aides aux fédérations nationales. C'était une promesse de Gianni Infantino. La FIFA a également rendu public le salaire de son président Gianni Infantino, 1,5 million de dollars, et de sa secrétaire générale, la sénégalaise Fatma Samoura, près de 837 000 dollars.
Et enfin, Nicolas, NBA, championnat de basket nord-américain.
À moins d'une semaine de la fin de la saison régulière, la lutte pour les play-offs reste acharnée dans la conférence Est avec 5 équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche pour 4 billets. Les Hawks d'Atlanta ont décroché une victoire importante contre Boston, 123 à 116. Indiana a battu Milwaukee, 104 à 89.
Merci Nicolas. Morgane Guiriec, en votre compagnie, les dossiers du jour. Au Burkina Faso, le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné hier 15 militaires à des peines allant de 3 mois à 17 ans de prison ferme pour l'attaque d'un dépôt d'armes en janvier 2016. Selon l'accusation, les armes volées devaient servir à libérer de prison, entre autres, les généraux Gilbert Diendéré, ancien chef du régiment de sécurité présidentielle, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères. Pour une analyse de ce verdict, Anastasie Tudiech a joint à Ouagadougou Aziz Sana, coordonnateur du mouvement citoyen Ça suffit.
Ce qui nous a paru très important, c'est d'abord l'effectivité du procès, parce que depuis près de 30 ans au Burkina Faso aussi, les différents procès n'ont jamais eu lieu. Nous sommes restés dans un pays où l'impunité a régné. Donc le fait que le procès ait déjà lieu, quel que soit le verdict, nous, c'est un fait de soulagement déjà.
Comment vous expliquez-vous que cette fois-ci, la procédure ait été jusqu'au bout?
Parce que nous avions travaillé au cours de la transition à rendre la justice plus ou moins indépendante. Et aujourd'hui, les autorités nouvellement élues ont fort conscience que sans justice, la réconciliation sera très difficile et sans justice, on pourra revenir à une situation plus dramatique que celle du régime passé. Quant au verdict, elle peut être analysée de diverses façons.
Quelle est votre analyse à vous?
Nous pensons que l'analyse au niveau de la justice, elle est fiable. Donc aujourd'hui, il y a une indépendance de la justice. Donc nous faisons confiance à la justice. Et nous pensons que les différentes peines infligées au sergent chef Ali Kamou, qui est le chef de ce complot-là également aussi.
Et au sergent Olo Stanislas Silver Poda.
Ou à la Poda, qui est de 17 ans aussi. Nous croyons que, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, nous croyons que c'est des peines acceptables. Le verdict rendu est juste dans la mesure où ces différentes personnes ont reconnu au cours du procès leur implication et les différents rôles qu'ils ont eu à jouer. Donc, pour nous, ça ne fait plus aucun doute. Et si ce n'est pas peut-être la peine du sergent Roger Koussoubé, qui est de 3 mois, c'est cette peine-là que certains de la population jugent un peu légère. Mais comme nous le disons toujours, la justice a eu tous les éléments pour mieux analyser.
Donc cette condamnation est une victoire de la justice et aussi une victoire de la société civile burkinabé?
Exactement, c'est une histoire de la société civile, également aussi de la société politique. Quoi qu'on dise, c'est main dans la main que nous avions travaillé avec la classe politique d'opposition d'avant, également aussi. C'est une victoire aussi des réformes judiciaires que nous avons aussi amenées pendant la transition politique qui a eu lieu en 2015.
Aziz Sana, coordonnateur du mouvement citoyen, ça suffit. Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM. 1,8 milliard d'euros pour s'attaquer aux causes profondes des migrations irrégulières vers l'Europe et au phénomène des personnes déplacées en Afrique. À cet effet, la Commission de l'Union européenne et les pays de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, viennent de passer en revue à Yaoundé, au Cameroun, les projets à financer en Afrique centrale. Le reportage d'Emmanuel Jules Tape.
Nous sommes au lieu dit avenue Kennedy à Yaoundé. De nombreux candidats à l'immigration clandestine se recrutent ici. Robert Lipoti le sait très bien, lui qui est un rescapé camerounais du drame de l'immigration clandestine en Europe. De retour au pays, il sensibilise depuis lors contre le phénomène.
Nous sommes venus pour échanger avec eux, les présenter sur photo le parcours de la migration irrégulière de l'Afrique vers l'Europe. Les conditions de voyage au désert, où parfois les convois se perdent en plein désert, les gens meurent comme des animaux, pour les faire savoir que si jamais ils arrivent à prendre une telle décision, ça pourrait être eux demain.
Allô, allô, approchez chers amis.
Ce jour, mégaphone à main, Robert Lipoti sensibilise avec à ses côtés Marlise, une jeune Camerounaise, ancienne migrante du Liban.
J'ai travaillé en tant que ménagère au Liban, où j'ai vécu les pires moments de ma vie.
Que penser alors du fonds d'urgence contre les causes profondes des migrations irrégulières et du phénomène des personnes déplacées en Afrique? Robert Lipotti est très nuancé sur le sujet.
Ce fonds est le bienvenu seulement s'ils peuvent trouver des mécanismes assez faciles pour que les associations qui œuvrent sur les questions de migration au Cameroun et en Afrique de manière générale puissent avoir une accessibilité, je disais, de ce fonds.
Et c'est justement, non loin de l'avenue Kennedy, que l'Afrique centrale et la Commission de l'Union européenne discutent de la lutte contre les causes profondes des migrations irrégulières. 1179 milliards de francs CFA sur financement du 11e Fonds européen pour le développement sont sur la table. Carla Montesi, directeur Afrique centrale de la Commission de l'Union européenne.
Il y a plusieurs natures des projets qui seront financés. Les Camerounais étaient déjà bénéficiaires des 5 projets des développements et des créations d'emplois qui étaient destinés essentiellement aux régions du nord du Cameroun pour un montant global de 40 millions d'euros.
La manne n'est pas seulement camerounaise, explique le Gabonais Pascal Moussavou Mbina, coordonnateur des projets du Fonds européen pour le développement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale.
Les pays qui sont éligibles, c'est essentiellement des pays qui sont situés sur les principales routes migratoires à destination de l'Europe. Plusieurs types de projets qui sont éligibles à ce fonds, des projets qui concernent la création d'emplois pour les jeunes et les femmes et qui mettent notamment l'accent sur la formation professionnelle et la création des petites et moyennes et micro-entreprises.
Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h CU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Cap sur la Guinée-Bissau, la crise politique débutée il y a plus de 2 ans a d'importantes conséquences sur la population. En plus de la pénurie de produits de première nécessité, les prix ne cessent de grimper. Le point sur place avec Noa Mankali.
Face à cette situation, notre reportage a recueilli les impressions des consommateurs qui ont déploré la cherté de la vie depuis l'installation de la crise politique bissau-guinéenne.
Les conditions des produits de première nécessité, n'est-ce pas? L'huile manque, c'est censé au marché. Tu achètes une valeur de 200 francs, mais c'est comme si tu as payé 100 francs. Cette huile de marque là qui coûtait 1000 francs par litre coûte maintenant 1100 francs par litre.
La situation de la vie que nous vivons est dure, difficile avec cette augmentation des prix. Ce que je peux dire à nos autorités, c'est de voir le problème des produits de première nécessité. Les choses sont très chères, chose que nous ne comprenons pas. Mon fils, moi je ne peux pas parler de ce problème car le litre d'huile coûtait 750 et maintenant c'est 1000 francs.
Ces citoyens ont beaucoup déploré la situation de la vie qui devient de plus en plus préoccupante, comme ils l'ont affirmé. En tout cas, Bambou Sagnan, président de l'association des consommateurs et services ACOBES de la Guinée-Bissau, a demandé l'intervention urgente des autorités compétentes pour mettre fin à cette hausse des prix dans le marché.
Alors, le gouvernement doit intervenir pour défendre les plus vulnérables. Pour cela, nous espérons que le ministère du Commerce, à travers ses structures compétentes, va prendre immédiatement des mesures adéquates pour pouvoir corriger cette situation au niveau du marché national.
Enfin, les consommateurs ont lancé un appel au ministère du Commerce afin qu'il apporte son influence pour baisser les prix des denrées de première nécessité.
Nous demandons la baisse des prix. Ce n'est pas normal. Le ministère du Commerce doit remédier à cette situation afin de faire baisser les prix des produits de première nécessité, surtout de l'huile.
On rappelle que notre reportage a tenté de contacter sans succès le ministre du Commerce, Victor Mandinga. Noa Mankali Bissau, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition à la mise en onde de Michel Joseph, Nick Ivanov à la console, présentation de Morgane Gaziec, ainsi qu'à Le Monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.